VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia et Jean-Roger Bion. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 30 janvier 2017, en direct de Washington. Pour commencer, les titres.
Au moins 5 morts dans une fusillade au Centre culturel musulman de Québec, au Canada.
Il ne s'agit pas d'une interdiction visant les musulmans, comme les médias le rapportent faussement. S'est défendu Donald Trump après les réactions à son récent décret sur l'immigration.
Au Yémen, au moins 14 combattants présumés d'Al-Qaïda et un soldat américain ont été tués hier dans la première opération commando des États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de M. Trump.
Sommet de l'Union africaine, aujourd'hui et demain à Addis Abeba.
Et ne manque pas notre journal de la CAN qui se poursuit au Gabon ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Deux hommes masqués ont tiré sur des fidèles rassemblés pour la prière du soir dimanche au Centre culturel islamique de Québec, dans le sud-est du Canada, faisant 5 morts et une dizaine de blessés, selon des sources concordantes. Un important dispositif policier s'est mis rapidement en place aux alentours et les premiers blessés étaient soignés dans des ambulances sur place.
Un porte-parole de la police de Québec a confirmé sur les chaînes de télévision qu'il y avait des morts, mais sans préciser le nombre des victimes. Une vaste opération policière a été lancée après la fusillade et deux suspects ont été interpellés, dont un à quelques kilomètres de Québec après avoir pris la fuite.
Les Canadiens pleurent les victimes de l'attaque lâche dans une mosquée de Québec. Mes pensées sont avec les victimes et leurs familles, a indiqué le premier ministre canadien Justin Trudeau sur son compte Twitter.
Il avait la veille promis d'accueillir les réfugiés indépendamment de leur foi au lendemain de la décision controversée de la Maison-Blanche d'interdire l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans.
Manifestations, condamnations politiques, pressions internationales, Donald Trump se retrouve sur la défensive pour sa deuxième semaine à la Maison-Blanche après sa décision de fermer les frontières pendant plusieurs mois à tous les réfugiés ainsi qu'aux ressortissants de 7 pays musulmans.
Après un week-end de confusion et de controverses, le président républicain s'est défendu de toute discrimination contre les musulmans alors que des milliers de manifestants se sont rassemblés à Washington, New York, Boston et dans d'autres ville des États-Unis. Dans les aéroports américains, des scènes de détresse ou de joie avaient lieu parmi les familles attendant de retrouver leurs proches bloqués par les agents d'immigration.
Les réfugiés sont les bienvenus. On scandait quelques 10 000 personnes dans un parc à la pointe de Manhattan à New York. Des élus démocrates se sont joints au rassemblement. Des milliers de manifestants se sont aussi fait entendre sous les fenêtres du président Trump dans le parc de la Maison-Blanche à Washington.
Pour que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une interdiction visant les musulmans, comme les médias le rapportent faussement, a déclaré M. Trump dans un communiqué. Cela n'a rien à voir avec la religion. Il s'agit de terrorisme et de la sécurité de notre pays, a-t-il dit.
Le décret adopté vendredi par l'administration Trump pour interdire temporairement aux ressortissants d'Iran, de Syrie, du Yémen, de Libye, d'Irak, de Somalie et du Soudan d'entrer aux États-Unis ne cesse aussi de susciter des réactions dans le monde musulman. Réaction de Mohamed Nagui, il est le directeur du Soudan Tribune à Paris.
Ce qu'on regrette, c'est que c'est une mesure qui manque de sens et qui paraît un petit peu fantaisiste. Surtout le président Trump, il a mentionné les attentats du 11 septembre et du coup, il a omis les ressortissants des pays qui ont participé dans ces attentats horribles et il a mis des pays qui n'ont rien à voir avec tout cela. Je crois qu'il a pris surtout la liste des pays qui soutiennent les terroristes et il a pris cette mesure-là dans ce sens-là. Mais déjà, si on parle du Soudan, l'administration soudanaise ou le gouvernement soudanais, il a largement collaboré avec l'administration américaine. Même le State Department, enfin le ministère des Affaires étrangères américain, il a déjà mentionné ça. Donc, on ne comprend pas, au fait, s'il s'agit d'un sens général ou s'il s'agit spécifiquement par rapport au Soudan. Et il n'y a pas de justification. Et c'est ça qui est navrant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a rien qui justifie cette mesure. Il n'a pas de sens pour vous de toute signification, de tout impact, du coup.
Mohamed Nagui, le directeur du Soudan Tribune à Paris.
Le reste de l'actualité, Addis Abeba accueille le 28e sommet de l'Union africaine. Les chefs d'État se réunissent aujourd'hui et demain pour décider, entre autres sujets, de la réintégration du Maroc et choisir le président ou la présidente de la Commission de l'Union africaine, Idriss Fall.
La réintégration du Maroc sera l'un des trois premiers points à l'ordre du jour. Les chefs d'État africains auront le dernier mot et vont décider pendant leur réunion à huis clos. Le Maroc avait annoncé sa volonté de réintégrer l'organisation panafricaine qu'il avait quittée en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique. Rabat a fait sa demande sans poser de préalable. Selon un responsable marocain, 42 pays soutiennent le retour du Maroc alors qu'il suffirait d'une majorité simple de 28 États sur les 54 pays membres. Les chefs d'État devront aussi choisir le président ou la présidente de la Commission africaine parmi 5 candidats. 8 commissaires en charge des différents départements seront désignés et celui qui prendra la tête du Conseil de paix et de sécurité fait l'objet d'une âpre bataille entre l'Algérie et le Nigeria. Aussi, les recommandations du comité d'experts réunis autour du président rwandais Paul Kagame sur la réforme de l'Union africaine et sur son financement seront sur la table, ainsi que les crises qui secouent le continent.
La France a annoncé une aide d'un million d'euros pour sauvegarder l'écosystème du lac Tchad. C'était pour rappel lors de la visite samedi à N'Djamena de la ministre française de l'Environnement, Ségolène Royal. Près de 13 millions de personnes dépendent directement du lac Tchad. Cette zone d'échange et de production agricole est halieutique. La zone accueille en outre des milliers de déplacés et réfugiés fuyant les exactions perpétrées par le groupe djihadiste nigérien Boko Haram.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, au moins 14 combattants présumés d'Al-Qaïda et un soldat américain ont été tués hier dans la première opération commando menée par les États-Unis au Yémen depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ce raid d'envergure a été lancé hier à l'aube à Yakla, une région montagneuse difficile d'accès, abritant des repères et camps d'entraînement d'Al-Qaïda.
D'après le centre de commandement américain, un soldat a été tué, au moins 4 blessés. Un responsable du Pentagone précise que les forces américaines n'ont pas fait de prisonniers. Dans un communiqué, Al-Qaïda dans la péninsule arabique a affirmé que près de 30 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants.
En Syrie, l'armée gouvernementale a repris hier la région de Wadi Barada, près de Damas, après plus d'un mois de combats. Une nouvelle défaite pour les rebelles qui subissent à échec après échec dans cette guerre.
L'ancien premier ministre français Manuel Valls a perdu la bataille de la primaire socialiste face à Benoît Hamon, malgré ses efforts pour s'imposer comme le seul homme capable de rassembler la gauche en vue de la prochaine présidentielle. Sans rancœur, il a immédiatement appelé les électeurs à soutenir son rival et surtout à rester mobilisé et vigilant pour éviter, sur fond de montée du populisme, que la candidate de l'extrême droite, Marine Le Pen, devienne le nouveau visage de la France.
Tout de suite, le journal de la Cannes, présenté par Nicolas Pinault.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous. Immense déception pour les supporters congolais ce matin. La République démocratique du Congo qui est tombée sur un Ghana plus réaliste hier à OIM en quart de finale. Victoire 2-1 pour les Black Stars. Tout s'est joué en deuxième mi-temps avec l'ouverture du score de Jordan Ayew pour les Ghanéens, avec une égalisation de Paul-José Mpoku pour les Léopards, puis un pénalty indiscutable est accordé aux Ghanéens qui prennent l'avantage grâce à André Ayew. Premier du groupe C, les Léopards pourront nourrir des regrets. On retrouve AOM Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire.
Dominateurs en première période, les Léopards n'ont pas pu concrétiser la kyrielle d'occasion qu'ils ont obtenue avant de se faire punir en seconde mi-temps sur des erreurs de Rémi Moulumba, puis Jos Lomalissa. Florent Ibengue, le sélectionneur congolais.
Il faut savoir assumer. On ne peut pas toujours gagner. Aujourd'hui, on a mis les ingrédients pour pouvoir gagner le match. On savait qu'il fallait jouer contre cette équipe du Ghana. Il ne fallait pas attendre. Malheureusement, il fallait mettre encore un peu plus de rythme en première mi-temps parce qu'il gelait bien. On s'est procuré quand même beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas su concrétiser. Là, devant la surface de vérité, on n'a pas été bon.
Les Black Stars ghanéens, eux, ont souffert en première mi-temps, concédant de nombreuses occasions mais sans flancher avant le show des frères Ayou. Jordan Ayou, le cadet, auteur du premier but de sa sélection, salue le travail collectif de son équipe.
On a gagné, voilà, faut féliciter les gars, voilà, ils ont fait des bonnes choses, défensivement surtout. Voilà, moi j'étais devant, j'ai eu une occasion, j'ai essayé d'être le plus efficace possible et aujourd'hui ça m'a réussi, alors voilà. Je pense qu'ils ont fait une mi-temps et nous on a fait la deuxième mi-temps et voilà.
À l'expérience donc, le Ghana se qualifie pour sa 6e demi-finale consécutive à la CAN depuis 2008 et va croiser le Cameroun à Franceville. Oyem, Thierry Kambondi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
À Port-Gentil, les Pharaons ont attendu les ultimes minutes pour battre le Maroc. Une victoire 1-0 qui propulse l'Égypte dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique 7 ans après sa dernière demi-finale. Amine Birouk a suivi ce match pour VOA Afrique depuis Port-Gentil.
Le métier des Pharaons a eu raison de la fougue des Lions de l'Atlas ce dimanche lors d'un duel 100% nord-africain. Les Égyptiens ont su faire la différence dans le Money Time suite à un cafouillage habilement exploité par Mohamed Souleymane à la 87e minute. Un but qui venait ruiner les espoirs de qualification des Marocains pour les demi-finales. Ces derniers avaient laissé passer leur chance, notamment en début de seconde mi-temps. Mais cette élimination prématurée du Maroc ne laisse aucun regret à un Hervé Renard fier de la combativité de ses troupes.
Je suis fier de tous les joueurs. Sincèrement, ils ont été exceptionnels. On a vu un joueur exceptionnel dans le milieu de terrain, Moussoufa, qui a été au-dessus de tout le monde dans tous les matchs. Nos défenseurs ont été d'une rigueur et d'une volonté aussi exceptionnelles. On doit juste être fier de ce qu'on a fait, parce qu'on part de très loin. L'Égypte est bien devant, cette nation est bien devant la nôtre. Parfois, il faut être réaliste, mais sur un match, on pouvait le faire. Mais on ne l'a pas fait. Il manquait une toute petite chose.
Le rêve continental se poursuit pour l'Égypte qui devra mercredi prochain en demi-finale à Libreville confirmer son retour au sommet devant le Burkina Faso. Mais ceci est une autre histoire. Depuis Port-Gentil au Gabon, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Les Pharaons d'Égypte affronteront au prochain tour le Burkina Faso qui s'est débarrassé de la Tunisie en quart de finale à Libreville. Les étalons espèrent rééditer l'exploit de 2013 où ils avaient atteint la finale du tournoi. Écoutons Paolo Duarte, l'entraîneur du Burkina qui prépare sereinement ce rendez-vous.
Non, féliciter le joueur, c'est sincèrement. Féliciter un groupe qui a beaucoup souffert. Féliciter un groupe qui sent chaque match qu'on passe physiquement son meilleur. Parce qu'on a eu beaucoup de sourds avant de la CAN. Et voilà, quand on a cette détermination, cette posture sur le terrain, et que tout le monde veut gagner, tout le monde mange la balle, c'est comme mentalement le premier but nous a donné une drogue qui a fait résister toute l'équipe dans le combat physique et dans la transition. Je me sens l'entraîneur clairement.
Paolo Duarte, l'entraîneur du Burkina Faso, au micro de Timothée Donangmaï, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon. Dans l'autre demi-finale, le Ghana jouera contre le Cameroun. Un beau duel d'anciens vainqueurs de la CAN et un retour au premier plan pour les Lions indomptables qui ont battu le Sénégal en quart de finale au tir au but. Les Lions de la Teranga qui ont quitté hier soir Franceville pour retourner à Dakar. On réécoute Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, qui s'exprimait samedi soir après le match en conférence de presse.
Une élimination, c'est jamais facile, ça c'est sûr. Déçu surtout pour les garçons, déçu pour le pays aussi, qui attendait beaucoup de nous. Mais je les encourage à lever la tête. Je crois qu'aujourd'hui, je pourrais dire que dans le jeu, on a été plutôt meilleur que le Cameroun. Mais comme je vous le dis, les tirs au but, après, c'est au coup de sort, on ne peut pas le maîtriser. Donc féliciter mon collègue Bross, lui souhaiter bon vent. La déception du vrai, désolé pour le Sénégal. Je suis déçu pour le pays. Donc je présente mes excuses à tout le pays. Je suis le premier à être malheureux. On ne peut pas être satisfait parce qu'il y avait vraiment la possibilité de passer un cap aujourd'hui.
Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, au micro d'Amdine Sy pour VOA Afrique. C'est la fin de ce journal de la CAN. Prochain point sur le tournoi ce soir sur VOA et rendez-vous sur notre page Facebook et notre site voaafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous commençons par la Minute Éco, Eric Manirakiza.
La Banque mondiale finance l'extension du port de Dar es Salaam en Tanzanie pour 365 millions de dollars. D'ici 2020, sa capacité devrait atteindre 28 millions de tonnes par an. Deuxième plus grande de l'Afrique de l'Est, il dessert le Malawi, la Zambie, la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, soit environ 95% du commerce international. Cependant, ces dysfonctionnements causent un manque à gagner de 2,6 milliards de dollars par an pour la Tanzanie et ses voisins. Les îles Comores, prêtes à réhabiliter et à agrandir son réseau routier, pour exécuter ce projet, la BAD va décaisser sur 5 ans une subvention de 20,4 millions de dollars. Il est prévu la rénovation d'un tronçon de 47 km et la mise en œuvre d'un plan de protection contre l'érosion côtière, ceci pour stimuler les échanges commerciaux et impulser une croissance économique durable, selon la BAD. L'Ouganda vise à économiser environ 2 milliards de dollars par an sur le transport de ses marchandises à partir du port de Mombasa au Kenya. À cet effet, Kampala va construire un réseau ferroviaire standard de 1700 km pour se relier à la RDC, au Rwanda et au Sud-Soudan. Ce projet coûtera 2,3 milliards de dollars dont l'Ouganda négocie actuellement un prêt avec Exim Bank de la Chine.
Au Mali, il a été surtout question de l'extrémisme religieux à la 12e session de la conférence des parlementaires de l'OCI à Bamako. Notre correspondant Kassim Traoré.
En conclave à Bamako pendant une semaine, les parlementaires de l'Organisation de la coopération islamique OCI ont traité plusieurs sujets. Lors de la rencontre des experts, un accent a été mis sur le vivre ensemble et le dialogue interreligieux. Docteur Marie-Madeleine Togo, participante.
Vers un développement harmonieux, si tout ça ne pouvait pas contribuer à ramener la paix dans le monde. Ils l'ont rappelé aussi, quelles que soient les religions, et plus particulièrement la religion musulmane, c'est vraiment une religion de paix. On ne parle que de paix, on parle que de Dieu, on parle que de l'amour du Tout-Puissant. Donc la violence que nous voyons ne reflète pas du tout le visage humble, le visage miséricordieux du Tout-Puissant que les saintes écritures nous ont enseigné, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible.
La situation en Palestine, en Syrie et au Mali n'ont pas échappé aux parlementaires de l'OCI. Tous parlent de correction des injustices dans le monde. Honorable Abdul Galil Aydara.
Si l'injustice n'est pas réparée, c'est que les dégâts vont continuer toujours à se faire. Donc vraiment, je crois que Bamako est une occasion, surtout avec l'arrivée à la Maison Blanche des nouveaux patrons, avec des décisions dont vraiment, c'est pour le moment, c'est inquiétant pour la communauté musulmane. C'était de voir nos différences culturelles, c'est de voir nos différences linguistiques, c'est de nous voir nos différences vestimentaires, comme on le dit, culturelles, mais nous sommes dans la même religion parce que nous adorons le même Dieu. Donc, ça, c'est le message essentiel aujourd'hui que nous devons faire porter.
Les pays de l'Organisation de la coopération islamique s'engagent à faire un combat idéologique contre le terrorisme afin que les jeunes échappent à ces fléaux. Guédjouma Sanogo, président de la commission d'organisation de la conférence de Bamako.
Si l'on parvient à faire comprendre à nos populations et surtout à nos jeunes qui se laissent entraîner dans cette spirale de la violence que ça n'est pas en fait de l'islam ou que les principes que ces gens professent ne sont pas en conformité avec le Saint-Coran et l'islam, je pense que ceci sera très important. Donc le combat est d'abord idéologique en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Ensuite, je voudrais souligner qu'il y a une alliance islamique qui a été créée, qui est dirigée par l'Arabie Saoudite et qui a vocation à lutter militairement contre les groupes extrémistes.
Pour combattre efficacement le terrorisme, les parlementaires ont formulé une batterie de recommandations en se basant sur la diversité culturelle. Honorable Aïdara.
La même chose que nous devons revenir chez nous, au fond même du Mali et du Mali profond, que cette diversité culturelle, que cette diversité dans la pratique doit être tolérée et acceptée par les uns et les autres pour que nous vivions ensemble. Le vivre ensemble, c'est culture, ça se fait travailler. Et le Mali a travaillé sur ça pendant beaucoup de temps. Même de religions différentes, à plus forte religion dans la même religion, nous devons nous accepter et vivre ensemble avec la différence.
Enfin, ils ont appelé les pays membres de l'ECI à lutter contre le fanatisme, l'extrémisme, mais surtout la diffusion d'une saine compréhension de la religion et de ses préceptes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Face à la montée meurtrière du terrorisme, le Burkina Faso a pour sa part décidé de créer un pôle judiciaire spécialisé dans le traitement des dossiers terroristes. De Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
L'arsenal juridique burkinabé vient de se voir renforcé en matière de lutte contre le terrorisme avec la création d'un pôle judiciaire spécialisé. René Bagoro, le ministre de la Justice, explique.
Nous avons créé ce pôle-là qui va permettre d'avoir une chaîne pénale depuis la police judiciaire jusqu'à la chambre de jugement en passant par des cabinets d'instruction spécialisés et des parquets spécialisés pour permettre de gérer ces infractions qui sont complexes. Vous savez que notre pays a été touché par une vague d'attaques terroristes et cette situation nous a amené qu'au niveau de la justice à nous rendre compte qu'il nous fallait affiner davantage nos méthodes de travail, ce qui nécessitait qu'il faut consacrer un personnel spécifiquement à cette tâche et aussi d'avoir un appui d'experts pour les aider.
Qu'en pensent les premiers acteurs du monde judiciaire, que sont les magistrats? Voici l'avis de Laurent Poda, il est procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou.
Les infractions de terrorisme, ce ne sont pas des infractions que nous trouvons tous les jours, vol, abus de confiance. Et donc, ces infractions sont abordées dans leur ensemble par des textes spécifiques. En tout cas, nous nous habituons à ces procédures spéciales puisque ce sont des infractions, j'allais dire, transnationales qui touchent à la fois le Burkina, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire, même le Tchad.
Être juge antiterroriste étant synonyme de côtoyer le danger, quelle garantie de sécurité pour ces derniers, suivant la réponse du procureur général Laurent Poda.
Les magistrats sont dans tous les cas exposés tous les jours à des risques. Ceux qui vont s'occuper des dossiers de terrorisme seront plus spécifiquement visés. Et donc, je crois savoir que l'État mettra les moyens à la disposition de ces derniers pour pouvoir ne serait-ce qu'assurer un minimum de sécurité. Du reste, il est enseigné aux magistrats en que sur les dossiers de terrorisme, des techniques de prise en charge de leur propre sécurité eux-mêmes.
Vu la dangerosité des terroristes, peut-on les garder dans les prisons ordinaires? Non, explique Lassane Dao, il est le président de l'association SOS Pénitencier.
Si on pouvait avoir des lieux propres pour ces terroristes, nous pensons qu'ils seraient en tout cas judicieux. Comme les gens disent que quand on rentre en prison, on rentre élève et on sort maître. Si vous nous prenez garde et qu'on les laisse avec les autres prisonniers, nous avons peur qu'à un certain moment, ils nous fassent une contamination. Donc, on fasse attention à pouvoir les mettre en lieu sûr. Ça doit au moins nous donner à réfléchir, pas créer une Guantanamo pour ces terroristes-là.
Zoumana Wounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Bénin, ce sera bientôt le premier anniversaire de l'alternance marquée par l'accession de Patrice Talon au pouvoir. Selon notre correspondante sur place, l'opposition structurée plus forte qu'attendaient les citoyens ordinaires ne s'est pas matérialisée. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
La chose est extraordinaire. Jamais au Bénin, un chef d'État n'a connu une adhésion aussi massive de la classe politique. Tous les gros bonnets n'ont pas hésité à faire allégeance au nouveau pouvoir. Les cas les plus surprenants restent les déclarations du PRD de maître Adrien Rungedi et la Renaissance du Bénin présidée par Léa Lissoglo, maire de la ville de Cotonou. Même pour les fausses coris pour un Bénin émergent, alliance de partis soutenant les actions de l'ex-chef d'État, il faut attendre avant de se lancer dans une quelconque opposition au pouvoir actuel.
Je fais partie
partie des premiers opposants primaires au début. Mais aujourd'hui, je suis dans l'attente parce que ma position dans Derrière Zesou, c'était une position pour le soutien à Yahi Boni. Et mon engagement a pris fin depuis 6 avril 2016. Donc je ne suis plus engagé dans la lutte, ni à gauche, ni à droite. Mais j'observe pour voir les premiers résultats.
Dans le camp des mouvanciers, on se réjouit de cette absence d'opposition au point où le flirt entre l'exécutif et le législatif est palpable.
C'est par curiosité que tout le monde veut aujourd'hui s'aligner, faire main basse sur le clivage des représentants de partis politiques au sein de l'hémicycle et opter pour l'accompagnement du programme du président.
Peut-être qu'on va dire qu'il n'y a pas une opposition structurée. Il y a certains qui suivent un réalisme. Si vous avez opté pour un camp et que le peuple a sanctionné ce camp, si vous êtes réaliste avec vous-même, vous devez vous raviser, puis soutenir le choix du peuple. C'est cela souvent.
Actuellement, deux partis politiques nés après les élections essayent de jouer le rôle de l'opposition. Le président de l'un de ces partis, le Parti des valeurs républicaines, dénonce ici l'hypocrisie et la gourmandise de la classe politique.
C'est pas parce que les gens ne constatent pas qu'il y a des errements de la part donc du gouvernement actuel. C'est parce que tout le monde veut profiter donc du pouvoir et puis on joue à l'hypocrisie.
La société civile s'est aussi tue comme par enchantement au grand désarroi des populations. Pour le président du Social Watch, le temps n'est pas encore aux critiques.
Ce n'est pas parce que nous craignons des représailles que nous ne parlons pas, non. Ce n'est pas tout qu'on critique. Quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Quand ça va, il faut dire que ça va. Et nous essayons de mettre le doigt sur ce qui ne va pas.
Pour celui de l'Association pour la lutte contre la corruption, le régionalisme et l'ethnocentrisme, tant que tout ira dans le sens voulu par la société civile, impossible de critiquer le gouvernement et de le ralentir dans son élan.
Nous n'avons pas à enquiquiner le régime pour le moment. Soyons objectifs, soyons raisonnables. Ce n'est pas parce que nous soutenons aveuglément le régime en place, non. Mais nous avons vu que le régime est en train de poser des actes de salubrité, que si cela continue, nous aurons satisfaction.
Dernièrement, le gouvernement a entamé des actions qui font plus de mécontents que d'heureux. Certains pensent qu'il serait peut-être temps que la classe politique digère enfin la raclée dans les unes pour se concentrer sur l'essentiel. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
En Guinée, l'innovation numérique s'exprime de plus en plus, nous signale notre correspondant sur place. À Conakry, par exemple, de nombreux jeunes formés dans les universités se lancent dans le processus de création et programmation informatique. Des jeunes engagés à lancer leurs entreprises. Reportage de Zakaria Camara.
Plusieurs dizaines de développeurs guinéens se sont retrouvés dans la capitale pour échanger, mais surtout présenter et défendre leurs projets. Mariama Siré Sissé veut se faire connaître et propose son logiciel.
Nous avons mis en place un logiciel de gestion d'événementiel, c'est-à-dire pour permettre aux gens de télécharger une application sur laquelle ils recevront toutes les dates des événements en cours et même passés dans le pays. Donc la possibilité aussi d'acheter les tickets en ligne, de réserver des places en ligne et de suivre les événements en direct via l'application.
Au départ, une centaine de groupes de 5 étaient concernés, mais seulement 15 seront retenus pour participer à un hackathon. Tierno Lamine Sidibé.
Nous cherchons à concrétiser nos projets. On a des idées en tête, mais on n'en avait pas vraiment les moyens de les mettre sur pied. Et ce hackathon nous a donné les moyens de concrétiser nos projets. On a un projet de gestion des établissements universitaires. Nous voulons donner plus de rapidité dans le traitement des données au niveau des établissements universitaires. Donc ça traîne un peu dans la gestion, dans le traitement des données des différents étudiants, non seulement pour l'édition des diplômes, par exemple, des bulletins de notes. Donc, apporter plus de facilité et de fluidité dans le traitement de l'information au sein des établissements universitaires.
Les 75 développeurs ont bénéficié d'une formation organisée par un incubateur.
L'entrepreneuriat ne sera pas une solution au chômage, mais l'idée c'est de montrer à ces jeunes-là qu'ils ont d'autres voies qui s'offrent à eux pour pouvoir justement résorber cette question.
Fatoumata Girassi, directrice générale de l'incubateur Sabutech Guinée.
Et donc nous allons accompagner en fait ces startups dans leur développement. Nous allons leur apporter des ressources, nous allons leur apporter un accompagnement individuel, un savoir-faire qui va leur permettre donc lors des premières années de vie de leur entreprise de pouvoir justement éviter les risques d'échecs liés à la jeunesse des entreprises.
Le taux de chômage chez les jeunes est de près de 60%. L'inadéquation entre la formation et la demande sur le marché ne facilite pas la recherche du premier emploi. Grâce au partenariat public-privé, plusieurs jeunes Guinéens s'orientent vers la création d'entreprises. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Daniel Brown pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.